France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Pour notre premier grand entretien de cette quatrième et nouvelle saison, on reçoit un astronome passionné par les impacts de météorites sur Terre comme sur Mars. Sylvain Boulet est notre invité. Deux axes principaux motivent ses recherches. Le premier, c'est l'étude des surfaces planétaires, et notamment de Mars. Ses travaux révèlent combien la planète a changé de visage au cours des temps et comment sa géographie s'est transformée pour aboutir à celle que l'on observe aujourd'hui. Il a découvert un continent caché et a mis en lumière les traces d'un tsunami géant dans un ancien océan. Chasseur de météorites, sur Terre, il étudie aussi ces cicatrices géologiques que sont les cratères d'impact. Sylvain Boulet, Mister Météor. Sylvain Boulet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes planétologue, professeur au laboratoire Géosciences Paris-Saclay et vice-président de la Société Astronomique de France. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous d'être à l'écoute, à ce rendez-vous en direct ou à toute heure, en podcast. Vous pouvez nous suivre sur notre fil podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous toutes nos sources et sur notre compte @sciencesqfd. Alors, de quelle manière étudiez-vous ces objets qui entrent en collision avec l'atmosphère terrestre ou sur le sol martien? Quelle information tirer de ces objets et pourquoi donc courir après les météorites? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, comme nous allons partir à la cueillette des météorites, un petit point vocabulaire, quelle différence entre comètes, astéroïdes, météores, météorites et météoroïdes?
Alors en fait, dans l'espace, il va y avoir des corps qu'on appelle les astéroïdes pour des corps rocheux ou des comètes qui vont être des mélanges de roches, de glace et de grands vides. Donc ça, c'est les corps qui tournent autour du Soleil et c'est vraiment les corps célestes. Quand un morceau d'astéroïde est plus petit, on va parler de météoroïde. Donc un météoroïde, c'est un petit astéroïde. Et puis quand l'objet, le météoroïde, rentre dans l'atmosphère, il va créer un phénomène lumineux, une grosse étoile filante, qu'on va appeler un météore. Et quand l'objet, on le retrouve au sol, sous forme de roche, on appelle ça à ce moment-là une météorite.
Météorite, on va donc partir, comme je disais, à la cueillette. On était, il y a encore pas si longtemps que ça, dans la saison des étoiles filantes. Il y a plusieurs phénomènes qui donnent lieu justement à ces pluies d'étoiles filantes.
Oui, alors en fait, les pluies d'étoiles filantes, en fait, il y a plusieurs raisons de voir des grosses étoiles filantes. Il y a les essaims météoritiques, comme c'est le cas au mois d'août, ou alors à ce moment-là, c'est la Terre qui traverse un nuage de poussière laissé par une comète. Ou alors, on peut avoir des gros bolides, souvent très lumineux et souvent là, c'est un petit astéroïde qui rentre dans l'atmosphère et c'est à ce moment-là qu'on pourrait trouver une météorite. Pour le moment, en fait, on ne trouve pas de météorites, de grosses météorites issues des comètes. Donc, les météorites qu'on trouve sont issues quand même des astéroïdes.
Pourquoi on ne trouve pas de comètes sur notre surface terrestre?
En fait, le matériel cométaire, si vous aviez la possibilité d'aller vous promener à la surface de la comète, c'est du matériel très fragile. Donc, vous pouvez avoir des blocs, mais quand vous rentrez à pleine vitesse dans l'atmosphère, en fait, le bloc se désintègre complètement. C'est du matériel très fragile et donc on a jamais un gros morceau qui arrive au sol.
Par contre, des poussières cométaires, on peut en trouver sur la Lune.
Oui, alors des petits blocs cométaires, effectivement, comme la Lune n'a pas d'atmosphère, on peut avoir des objets de plusieurs centimètres, voire dizaines de centimètres, qui arrivent à pleine vitesse à la surface de la Lune. Et au moment de l'impact, en fait, évidemment, ça arrive à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Donc le choc va être terrible. On va à ce moment-là éjecter un nuage de poussière, de gouttelettes fondues, et ça va créer une petite lumière qu'on appelle un flash lunaire. Ça veut dire que depuis la Terre, on arrive à détecter les impacts à la surface de la Lune. Et ça, c'est fascinant parce qu'on peut l'observer avec un télescope amateur, avec un télescope de 20-30 cm, une petite caméra, on peut détecter en direct les impacts à la surface de la Lune.
Ces flashs lunaires, vous les avez aussi observés en 2013. Vous avez participé, Sylvain Boulet, à la détection des premiers flashs d'impact lunaire depuis un observatoire au Maroc. Il faut dire que ce phénomène, les astronomes ont toujours observé ces flashs, mais on a mis du temps pour les comprendre.
Oui, en fait, c'est fascinant, ces petites lumières, parce que ça fait plus de 5 siècles que tous les grands astronomes, Kepler, Huygens, Enco, qui observaient des petites nuages à la surface des petites lumières à la surface de la Lune, et on interprétait ça plutôt comme des nuages, des éruptions volcaniques, des aurores boréales, et en fait, on ne comprenait pas ce que c'était. Et en fait, on a vraiment compris ce que c'était la nuit du 17 au 18 novembre 1999, quand une équipe, trois équipes, américaines, espagnoles et japonaises ont observé la Lune, cette fameuse nuit des Léonides. Vous savez, en novembre, on peut observer les étoiles filantes des Léonides qui peuvent amener plusieurs centaines d'étoiles filantes à l'heure sur Terre. Et bien, cette même nuit, là, ils ont observé une vingtaine de flashs lunaires. Et donc, plus aucun doute, effectivement, ces flashs étaient liés à des impacts de bouts de comètes.
Ces Léonides, on les retrouve dans notre archive du jour et on poursuit avec cette petite histoire des météorites.
Les météores et météorites sont connus depuis l'Antiquité. Les essaims d'avril, les lyrides, véritables pluies de météores, sont connus depuis au moins 2500 ans. L'une des plus anciennes météorites connues tomba en Phrygie, en Asie mineure, et fut adorée pendant plusieurs générations sous le nom de Cybèle, mère des dieux. Dans les temps modernes, on peut citer la chute d'un météorite à Ensisheim, en Alsace, le 10 novembre 1492. On la vit frapper le sol. Elle fut déterrée encore chaude à 5 pieds de profondeur, puis suspendue à l'intérieur de l'église par des chaînes. On distingue actuellement entre les météorites qui arrivent jusqu'au sol et les météores, météorites évanescentes, qui disparaissent dans l'air avant d'arriver au sol. Une fantastique averse de météores tombe sur la Terre. En dehors des grands essaims, il en tombe chaque jour des milliards. Et, en 1833 et 1866, Léonide, 1863 et 1885, Biélide, 1933 et 1946, Giacobinide, ils tombaient comme flocons de neige. Leur caractère astronomique n'a été définitivement admis qu'en 1833, après le grand essaim des Léonides. Cependant, dès 1798, on savait qu'il s'agissait de particules pénétrant dans l'atmosphère terrestre à une vitesse de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Dans les essaims, par effet de perspective, les météores qui ont dans l'espace des trajets parallèles semblent provenir d'un même point du ciel, le radiant de l'essaim de météores.
Voilà un extrait de l'heure de culture française diffusée sur la RDF en 1951. Votre réaction à l'écoute de cette archive, Sylvain Boulet, pour continuer cette histoire des météores?
Le fait qu'on sache finalement que les météores, ce que sont les météores, que depuis 1833, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Imaginez-vous quand même tous les humains qui vivaient avant 1833, qui passaient les nuits à voir des flocons de neige tomber et sans savoir ce que c'était. Moi, je trouve ça fascinant. Tous ces phénomènes astronomiques où on a vécu une grande période de temps sans savoir ce que c'était. Ça peut être effrayant, effectivement. Et souvent, les essaims d'étoiles filantes sont associés à des mauvais présages. Et dans certains cas, quand même aussi, ça peut être de bons présages. Et donc, il faut continuer. On dit souvent qu'il faut faire des vœux, évidemment. Donc, n'hésitez pas à en faire, ça coûte rien. Mais c'est vrai que je trouve ça fascinant, ce moment assez tardif de comprendre ce qu'étaient vraiment les météores.
Ces météores et ces météorites, chaque année, la Terre reçoit environ 50 000 tonnes de matière extraterrestre, mais seule une infime partie arrive à la surface.
Oui, heureusement pour nous, 50 000 tonnes, plus ou moins 20-30 000 tonnes. Mais c'est vrai que heureusement pour nous, on a cette atmosphère qui nous protège. Sans cette atmosphère, on aurait des dizaines de milliers de tonnes qui arriveraient à la surface. C'est ce qui se passe sur la Lune. C'est-à-dire que sur la Lune, c'est un bombardement permanent. Ce qu'on appelle le micro-bombardement, c'est-à-dire que depuis 4 milliards d'années, on resurface en permanence la surface de la Lune. Et heureusement pour nous, on a cette atmosphère qui nous protège. Ça fait des belles étoiles filantes. Et sur les quelques dizaines de milliers de tonnes qui rentrent dans l'atmosphère terrestre, on a peut-être quelques tonnes qui arrivent au sol et qu'on retrouve sous forme de météorites.
Voilà, c'est pour ça que sur la Lune, on voit des cratères de toute taille. Ça va du cratère millimétrique au cratère de plusieurs milliers de kilomètres.
C'est ça, exactement. Sur la Lune, on a notamment cette couche qu'on appelle le régolithe. Vous savez, le régolithe, c'est cette couche de poussière qui recouvre toute la surface de la Lune de 5 à 15 mètres d'épaisseur. Ce régolithe, c'est cette couche qui s'est formée pendant 4 milliards d'années, qui est liée justement au bombardement permanent qui a détruit les roches de surface et qui a créé cette poussière. Et sur la Terre, on n'a pas ça parce que tout simplement, on est protégé. Et en fait, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que sur Terre, on voit très peu les impacts anciens à la surface de la Lune. Quand vous regardez la Lune, la majorité des impacts que vous voyez se sont formés il y a plus de 3 milliards d'années. Sur Terre, tous les impacts qui se sont formés il y a 3 milliards d'années ont disparu. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette fameuse tectonique des plaques qui renouvelle sans cesse la surface de la Terre. Et donc, on a un peu perdu l'histoire de la Terre. Donc, pour retrouver finalement l'histoire ancienne de la Terre, il faut regarder la Lune ou la planète. planète Mars.
Et on va voir qu'on a mis un peu de temps, là encore, à comprendre que c'était des impacts d'astéroïdes. Mais toujours par rapport à ces astéroïdes, on recense à peu près 700 000 astéroïdes. La plupart sont situés dans la ceinture principale, entre Mars et Jupiter. Et puis, il y a les astéroïdes géocroiseurs, c'est ceux qu'on surveille le plus, qui nous préoccupent. Mais on a quand même du mal à cartographier l'ensemble des astéroïdes et à comprendre véritablement le risque de collision.
En fait, aujourd'hui, on arrive véritablement à bien suivre les gros astéroïdes, c'est-à-dire les astéroïdes de plus d'un kilomètre de diamètre. Ceux-là, on les connaît à peu près tous, ceux qui frôlent la Terre ou pas, on les a identifiés. Ce qui pose le plus de problèmes, ça va être les objets de quelques dizaines de mètres, voire la centaine de mètres. Et là, effectivement, on arrive à en détecter, mais finalement, une toute petite proportion. Donc, il peut arriver, hein, on l'a vu pour Tcheliabinsk en 2013, quand effectivement ce bolide de 20 mètres, cet astéroïde de 20 mètres est rentré dans l'atmosphère, eh bien, personne ne l'avait vu venir, celui-là. Alors que le même jour, hein, il y avait un astéroïde qui s'appelait 2012 DA14, donc le même jour, il y a un astéroïde qui passait à 30 000 km de la Terre, et il y a eu l'astéroïde de Tcheliabinsk. Donc, en fait, sans cesse, hein, voilà, l'environnement terrestre n'est pas de tout repos. On peut régulièrement avoir des astéroïdes qui passent pas loin de la Terre sans les voir. Donc, bon, ça fait un peu peur, mais il faut se rassurer quand même. Les grosses collisions sont quand même relativement rares.
Tcheliabinsk, en effet, on a des vidéos amateurs où on voit, c'est quand même un petit corps de 18 mètres de diamètre, mais c'est très impressionnant comme image. On voit des flashs lumineux dans le ciel.
Oui, là, quand même, hein, c'est un gros autobus. Hein, donc, voilà, ça rentre à une vitesse, là, c'était 18 km par seconde. Donc extrêmement vite. Donc c'est pas tous les jours qu'on a un corps de 20 mètres. Ce corps-là ne se serait pas désintégré comme il l'a fait. Il serait arrivé au sol. Il aurait potentiellement fait un cratère d'impact de 400-500 mètres de diamètre. Donc évidemment, hein, vous avez une petite ville en dessous, bah, il n'y a plus de petite ville en dessous. Donc heureusement, cet objet s'est fragmenté en des milliers de morceaux et ça a provoqué notamment cette fameuse onde de choc. Cette onde de choc qui s'est propagée et qui a brisé des milliers de fenêtres et qui a provoqué quand même pas mal de blessés. Donc si un conseil hein, pour tous les auditeurs, si un jour vous voyez une grosse boule dans le ciel, eh ben, n'allez pas derrière votre fenêtre. Parce qu'évidemment, l'onde de choc va mettre une minute trente à vous parvenir. Et donc, voilà, vous êtes derrière tranquillement et là, vous allez prendre des éclats de verre. Donc, si vous observez un gros bolide, vous sortez, vous observez le phénomène, mais bien tranquille dehors.
Très bon conseil, merci. Mais si, pour les objets un peu plus gros, par exemple, imaginons 100 mètres, 300 mètres de diamètre qui chutent, imaginons, sur Paris, quelles conséquences?
Alors, 100 mètres, 300 mètres, hein, on est quand même déjà dans du bon objet. Hein. Là, moi, j'avais calculé dans le film Armageddon, il y a un moment donné une scène où il y a un astéroïde qui arrive sur Paris, on est à peu près sur un corps de 300 mètres de diamètre. Donc, 300 mètres de diamètre, ça fait un trou de 6 km de diamètre. Il n'y a plus grand-chose dans Paris. Alors, dans Armageddon, ils sont un peu plantés, ils ont fait un trou de 500 mètres, il y avait un bout de l'Arc de Triomphe qui tombait. Donc, voilà, le mythe s'effondre, entre guillemets, hein, le cratère d'impact dans Armageddon n'est pas du tout réaliste, mais effectivement, un astéroïde de 300 mètres sur Paris, bon, bah, toute la région Île-de-France disparaît, hein, et puis en France, quand même, on va quand même ressentir évidemment les effets, c'est pas négligeable.
Dans Armageddon, on voit aussi sur le sol avant le cratère que ça laisse une sorte de traînée, ça c'est voilà. Pas possible non plus.
Non, pas du tout, pas du tout, effectivement. Et c'est dans le film Météor 1979, il y a aussi exactement ce même phénomène. Je me demande s'ils ont pas un peu, fortement inspiré. Quand vous formez un cratère d'impact, l'énergie est telle, hein, je rappelle quand même que l'objet arrive à plus de 10 km par seconde, l'énergie est telle que quand ça touche le sol, vous allez avoir presque une explosion. Alors, c'est pas vraiment une explosion, mais vous allez avoir une onde de choc qui va se propager, qui va tout détruire sur son passage, qui va se propager à environ 5 km par seconde, donc qui va être ressenti par exemple par les séismes. Et puis, vous allez avoir un rideau d'éjecta qui va s'ouvrir. En fait, le sol s'ouvre véritablement. Et à ce moment-là, vous allez potentiellement, en quelques secondes, à quelques dizaines de secondes, eh bien, avoir la formation de ce cratère d'impact toujours circulaire. Presque toujours, en vérité, si vous avez un cratère vraiment, un astéroïde vraiment oblique, là, vous pourrez éventuellement avoir un cratère un peu elliptique, mais en tout cas, un cratère est toujours circulaire.
Alors, comment a-t-on compris la réelle nature de ces structures ? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture. Nous avons la chance de nous entretenir une heure avec Sylvain Boulet et nous sommes avec lui sur la piste des météorites. On vient d'évoquer les cratères d'impact. Il y en a un sur lequel vous travaillez depuis de nombreuses années au Tadjikistan. Il fait 50 km de diamètre. C'est le cratère Karakul en plein Himalaya. Vous dites que c'est un peu le cratère fil rouge de votre carrière de chercheur. Pourquoi?
Ah, parce que, en fait, par hasard, je suis arrivé un peu au Tadjikistan par hasard pendant ma thèse. Et on devait, en fait, j'allais donner des cours à l'Académie des sciences de Douchanbé, d'astronomie, d'imagerie. Et donc, et à ce moment-là, j'ai décidé d'aller faire un tour avec deux amis dans le Pamir, en fait, dans l'Himalaya, à 4000 mètres d'altitude. Et j'avais vu cette structure un peu bizarre. J'avais fait un peu de bibliographie. Et il y avait un papier d'un planétologue qui s'appelait Gurov, qui à l'époque, qui a pensait, puis qui avait montré quand même déjà des indices de formation de cratères d'impact. Et donc ça, c'était en 2008. Et donc en 2011, j'ai motivé d'autres collègues pour y retourner. Là, on a pensé découvrir des choses qui, finalement, n'étaient pas totalement convaincantes. Et donc, on s'est dit il fallait y retourner. Donc, on y est retourné en 2016. Donc, on a bien avancé sur la cartographie de ce cratère. Ce cratère, il est incroyable. Alors, c'est le plus bel endroit sur Terre. Hein. Vous êtes à 4000 mètres d'altitude. Vous êtes entouré de montagnes enneigées à 6000 mètres d'altitude et vous êtes dans un bassin de 50 km avec des eaux bleues turquoises, des petites îles. C'est un endroit vraiment magique à la frontière entre la Chine et le Kyrgyzstan. C'est incroyable. Vraiment, c'est une de mes plus belles missions. Et donc, on a même amené un bateau pour naviguer sur ce lac hein, au centre du cratère. Et on y travaille, mais on n'arrive pas totalement à avoir toutes les réponses. On est à peu près sûr que c'est un cratère d'impact, même s'il nous manque encore quelques éléments. On a des doutes sur la taille du cratère d'impact et surtout on n'arrive pas totalement à trouver les indices, les roches en fait qui montrent que c'est un cratère d'impact. Voilà, il va falloir y retourner et notamment essayer de trouver des roches fondues pour pouvoir dater ce cratère. On pense qu'il est assez récent, hein, on pense qu'il s'est formé il y a environ 10 millions d'années. Donc c'est un cratère de 50 km, 10 millions d'années, c'est certainement l'un des derniers gros impacts à la surface de la Terre qui s'est formé quand même dans une chaîne de montagnes et ça c'est unique sur Terre.
Oui, parce que pendant longtemps, on a cru que ces cratères d'impact c'était des anciennes traces de volcanisme, comme pour la surface lunaire. Alors comment a-t-on fait le lien entre météorites et cratères?
Ouais, je trouve ça fascinant. Quand on reprend tous les écrits du 19e siècle, la fin du 19e siècle, notamment Camille Flammarion, qui raconte que tous les cratères à la surface de la Lune, c'est bien du volcanisme, en fait. Et donc, on n'imaginait pas, en fait, qu'il puisse y avoir des milliers d'objets qui rentre en collision avec la Terre ou la Lune. C'était impensable parce qu'à l'époque, fin 19e siècle, on ne connaissait pas les astéroïdes géocroiseurs. Et donc, on était là en disant que voilà, le volcanisme était généralisé à la surface de la Lune. En 1904, il y a un homme qui s'appelait Daniel Barringer qui était le premier à faire le lien entre le météore cratère et des météorites de fer qu'il avait trouvées autour, sauf qu'il n'avait pas du tout compris. Enfin, il comprenait bien que le météore cratère et c'était formé par la chute d'une météorite, mais il n'avait pas compris où était passée la météorite qui avait formé le gros cratère. Le météore cratère, c'est 1 km de diamètre, et il imaginait qu'il y avait une énorme masse de fer sous le cratère. Et donc, il a acheté tout le terrain pour essayer d'extraire le fer, sauf qu'évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a un cratère d'impact, eh ben, il n'y a en général pas de météorite. Parce qu'évidemment, la météorite, quand elle arrive au sol à pleine vitesse, elle est complètement vaporisée et elle disparaît. Donc, voilà, les cratères d'impact ne sont pas les meilleurs endroits pour trouver des météorites. Et donc, voilà. Et donc, l'aventure a continué. Il y a eu quelques structures au XXe siècle qui ont été un peu identifiées. En fait, il faut attendre vraiment les années 60, avec notamment Eugène Shoemaker, qui trouve non seulement des indices de transformation minéralogique dans les roches de météores cratères, où il montre qu'à ce moment-là, il faut un impact énormément d'énergie pour modifier les roches lorsqu'on forme un cratère d'impact. Et puis sa femme aussi, qui participait à la découverte des astéroïdes géocroiseurs. Et c'est à partir des années 60 qu'on a découvert par centaines des astéroïdes géocroiseurs. Et là, on a commencé à comprendre véritablement ce que était l'impactisme. Mais c'est une science vraiment récente. Hein. Il y a 50 ans encore, on savait à peine ce que c'était un cratère. D'impact.
C'est ça, c'est fou de se rendre compte à quel point c'est récent. Et on entend bien dans cette histoire-là aussi l'importance de l'étude, de l'analyse des roches. Et vous nous avez apporté trois roches, trois échantillons. Alors, qu'est-ce que c'est? Puis est-ce que je peux vous demander d'être nos yeux?
Alors, voilà, la première roche que j'ai amenée, c'est une météorite, évidemment, parce que on rêve tous devant les météorites. Cette météorite, elle vient d'Afrique du Nord. C'est une météorite qui est ancienne, hein, on ne l'a pas vue tomber, on l'a retrouvée comme ça dans le désert. Et elle est entourée en fait une croûte de fusion noire, une croûte de, très caractéristique des météorites, et ça, c'est cette croûte qui fond lors de l'entrée dans l'atmosphère.
Mais c'est vrai qu'on dirait qu'elle est carbonisée. Comme
exactement,
ça.
Donc c'est un peu comme un gâteau au yaourt, en fait, complètement brûlé. Et à l'intérieur, vous allez retrouver notamment des grains de fer rouillés, parce qu'effectivement, cette météorite, c'est ce qu'on appelle une chondrite, donc il y a des petites billes de silicate, mais il y a aussi des grains de fer, et ces grains de fer ont rouillé avec le temps. Voilà, donc ça, effectivement, un exemple de météorite où il n'y avait pas de cratère d'impact, et elle est tombée tranquillement au sol. Puis les deux autres roches que je vous ai ramenées, en fait, c'est effectivement les roches qu'on cherche sur le terrain quand on cherche la présence d'un cratère d'impact. Quand vous avez un cratère d'impact et vous allez, l'impact est tellement énorme que vous allez vraiment modifier les roches à la surface. Il faut savoir que la pression et la température va monter considérablement. On va arriver à des pressions de 100 gigapascales. C'est quasiment la pression qu'on a à 2000 km de profondeur. Et donc, vous allez non seulement écrabouiller, complètement casser, concasser les roches de la surface terrestre. Toutes ces roches vont être éjectées, puis elles vont retomber. Et donc, on va avoir un mélange de roches, de gros grains, de petits grains. Et ça, ça va former ce qu'on appelle une brèche d'impact. Et donc, j'en ai ramené une. Une brèche d'impact qui vient de Rochechouart.
Bah là, on dirait comme ça, venait un peu du marbre. Hein.
Alors ouais, c'est une roche qu'on a polie dans mon laboratoire à Géops. Là, en fait, on a coupé la brèche d'impact, on l'a polie. Et on voit, vous voyez, des gros grains de quelques centimètres de diamètre. Et ça, c'est des morceaux de la roche originelle qui a été complètement cassée et qui s'est reformée, reconstituée avec d'autres morceaux. Et donc ça, c'est voilà, une brèche d'impact qui vient de Rochechouart. Rochechouart, notre seule structure d'impact en France, qui s'est formée il y a 200 millions d'années. Je vous invite tous à aller passer vos vacances à Rochechouart parce qu'il y a un joli musée. Vous allez pouvoir découvrir toutes les roches d'impact. Et surtout, vous pouvez aller vous balader parce que ce qui est étonnant à Rochechouart, c'est que tout le bâti, en fait, est construit en brèche d'impact. Donc, vous avez les églises, les châteaux. Et ça, elles sont fabriquées en brèche d'impact.
Et un troisième échantillon.
Oui, alors celui-là, il est un peu
plus
rare, plus modeste. Voilà, c'est ce qu'on appelle un morceau de shatter cone. En français, on va dire cône de percussion. Si vous regardez à la surface, vous allez voir des dizaines de petits cônes qui se superposent un peu de manière fractale. Et si vous cassez le caillou, vous allez retrouver encore ces petits cônes. Et ces petits cônes, en fait, ce sont des micro-fractures qui se forment au moment de l'impact. La pression est telle que vous allez avoir, en fait, une onde qui va se propager de manière coniquement et qui va créer ces petits cônes. Et ça, c'est incroyable parce que quand vous trouvez des shatter cones, vous êtes sûr que vous avez un cratère d'impact. Donc, si vous avez des shatter cones dans votre jardin, vous m'appelez directement.
Alors, je vous invite à nous rejoindre en effet sur le fil CQFD sur Blue Sky où vous pouvez vraiment voir ces trois échantillons. Et si on trouve justement ces traces de roches dans son jardin, on peut vous appeler en effet, Sylvain Boulet, parce que vous êtes à l'initiative quand même de ce qu'on appelle, enfin de trois programmes. Un programme Vigiciel, Vigicratère, puisqu'en France, donc, on a détecté qu'une seule structure d'impact à Rochechouart. Dans le monde, on en dénombre à peu près de 200 structures, à peu près. Et vous êtes justement à la recherche et de ces météores avec Vigiciel et Vigicratère.
Effectivement, alors Vigiciel, c'est un programme de sciences participatives porté par le Muséum National d'Histoire Naturelle. Et un des volets de Vigiciel, c'est effectivement Vigicratère, qui a pour l'objectif de trouver des nouvelles structures. En fait, c'est simple, aujourd'hui, on en a 200, mais on pense qu'il en existe encore quelques dizaines, voire la centaine à découvrir sur Terre. Ça, c'est fascinant de se dire qu'en fait, sur Terre, on a encore des endroits qu'on n'a pas compris géologiquement. Et pourtant, quand même, il faut bien réaliser que quand vous avez un impact à la surface de la Terre, ça bouleverse complètement la géologie locale. Donc, pour mieux comprendre l'histoire de la Terre, c'est important de trouver, essayer de recenser ces structures d'impact. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec Vigicratère. L'idée, c'est tout simplement à partir d'images topographiques, des images de relief, d'identifier des dépressions, des trous, en fait. Tous ces trous, on les a fait, on avait 200 000 images qu'on fait analyser par le grand public. Alors, en ce moment, voilà, on est à la fin d'une phase test. On espère pouvoir un petit peu renouveler notre site pour pouvoir, justement, analyser toute la Terre. Aujourd'hui, on a analysé à peu près 15% de la surface terrestre. Et on a eu un étudiant, là, qui a travaillé avant juin, là, sur les résultats. Et donc, on a identifié environ 8 structures qui pourraient éventuellement être des cratères d'impact un peu partout sur Terre. Donc, la seule solution, finalement, c'est soit d'aller demander aux collègues d'aller casser un petit bout de caillou et d'essayer d'aller étudier un peu les roches, ou alors de se rendre sur place, évidemment, pourquoi pas d'aller faire un tour au Brésil ou en Australie ou ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a quand même... on est une petite poignée, en fait, de chercheurs à essayer de détecter les cratères. Et donc, c'est un c'est une façon, effectivement, voilà, d'impliquer le public dans cette recherche.
Voilà, un beau programme de science participative. D'ailleurs, un programme qui a reçu le prix du programme de recherche participative de la part du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche le 3 juillet dernier. Alors, parlons maintenant des impacts qu'il y a eu aussi sur Mars, des impacts si puissants qu'ils ont provoqué des tsunamis. Comment étudiez-vous la jeunesse de Mars et ses différents visages? Restez avec nous. Steiner, Spaceships versus Asteroid Belt en direct sur France Culture, car nous parlons d'astéroïdes, de météorites, de météores avec l'un de ses spécialistes, Sylvain Boulet, planétologue, professeur au laboratoire géosciences Paris-Saclay et vice-président de la Société Astronomique de France. On vient de parler de la chasse aux météorites sur Terre, parlons de Mars, mais d'abord parlons de votre parcours. Vous avez commencé l'astronomie quand vous aviez 8-9 ans, c'était une passion de gamin?
Ouais, j'ai été pris tout de suite. Alors, vous savez qu'en France, on a la chance d'avoir des clubs d'astronomie, on a la chance d'avoir la nuit des étoiles. Et c'est vrai qu'à 8 ans, voilà, j'ai croisé un télescope et je m'y suis mis très rapidement dans ma petite ville d'Ozoir-la-Ferrière. Et ma chance, c'est que j'ai eu un club d'astronomie qui s'appelle l'Uranoscope de l'Île-de-France à Gretz-Armainvilliers, berceau de l'aviation. Et en fait, bah, pendant toute mon adolescence, tous les vendredis, samedi soir, j'allais passer mes nuits avec mes amis à observer les étoiles. Et j'ai eu la chance notamment de rencontrer aussi plein de conférenciers passionnants qui venaient nous raconter des histoires à l'uranoscope et voilà, le virus a été pris comme ça et j'ai eu la chance effectivement d'en faire mon métier.
Le virus continue par la suite puisqu'en effet, étudiant, vous passez par une école d'ingénieur pour faire de l'optronique, optique électronique, pour fabriquer des télescopes, mais c'est une fausse piste.
Oui, alors j'adore ça parce qu'en fait c'est une idée qu'on doit se dire, oh, ça y est, on doit faire un choix et on doit être dans un rail, on doit y aller, on a le droit tous à l'erreur. Ça, je parle à tous les lycéens qui sont en terminale, se mettre une pression pas possible sur Parcoursup pour pas faire d'erreur. Et on a le droit de choisir et puis un an plus tard de se dire oh bah non, pas du tout, je vais revenir. Et ça a été mon cas. Effectivement, je voulais fabriquer des télescopes et puis un mercredi après-midi, je m'en rappelle, du mois de mai, j'en avais marre des TP d'optique et du coup, j'ai dit j'arrête l'école, je suis allé m'inscrire en agence d'intérim et le lendemain, je travaillais chez Castorama. J'ai mis quelques mois pour me savoir véritablement vers quoi je voulais revenir et j'ai eu la chance en fait au début de ma deuxième année de partir au Chili pendant un mois grâce à un ami, Alain Maury, et puis toute une équipe de l'Institut d'astrophysique de Paris qui m'ont fait confiance, ils m'ont envoyé sur un télescope à La Silla et là j'ai rencontré plein de monde et ça m'a aidé dans l'orientation et l'année suivante je suis reparti en sciences de la Terre. Je voulais plus observer le très lointain, j'avais besoin de concret, de cailloux à toucher et donc je me suis dit que j'allais faire de la géologie et de la géologie planétaire et c'est comme ça qu'a commencé ma rencontre avec les sciences de la Terre à Orsay. En fait, j'ai une grande histoire avec Orsay et je trouve ça évidemment fascinant aujourd'hui de pouvoir continuer et transmettre à nos étudiants, en fait, à l'université. Les sciences de la Terre, hein, c'est un domaine très, très vaste et qui mélange physique, chimie. Et c'est vrai que cette rencontre, c'est ça qui me doit. Enfin, voilà, mon parcours et la rencontre avec les astronomes, toutes ces rencontres pluridisciplinaires, c'était génial.
C'est pour ça, c'est pour ce besoin de concret que vous avez choisi la planète planétologie plutôt que l'astrophysique.
Oui, en fait, c'est vrai que j'avais besoin de comprendre. Je pense que je suis plutôt naturaliste et de choses, d'avoir besoin de choses concrètes. C'est vrai que je me suis toujours intéressé à la géologie de la Terre et essayer de voilà, de à partir de notre savoir de géologue, de comprendre l'histoire géologique des autres planètes. Je trouvais ça fascinant et c'était un mélange. Après ma thèse, en fait, après je suis rentré à l'Observatoire de Paris, j'ai rencontré des astronomes. Donc en fait, les limites, on met souvent des frontières, mais en fait, il faut garder à l'esprit que voilà. Quand on est intéressé, on peut mélanger toutes les sciences. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me fascine de mélanger les spécialistes de différentes disciplines pour essayer de sortir quelque chose de nouveau. Et j'essaye effectivement de faire ça dans ma recherche.
En tout cas, votre recherche, elle commence avec ce travail de thèse en 2009. J'aime beaucoup les thèses. Vous travaillez à l'Université Paris-Saclay sur les vallées fluviales martiennes. À ce moment-là, vous essayez de reconstituer justement l'histoire de l'hydrologie martienne. Il faut tout de suite dire, vous travaillez sur une époque où Mars ne ressemble pas du tout à celle qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, le visage de Mars que vous étudiez dans cette thèse n'est pas celle qu'on observe.
Non, effectivement. Alors, c'est étonnant. En fait, pendant longtemps, on a pensé que Mars ressemblait à la Terre. Hein. Si on reprend les écrits ou même les audios de Camille Flammarion, hein, Camille Flammarion est certainement un des premiers planétologues à essayer de comprendre finalement l'histoire des planètes. Il y a une bonne sonore qui est fascinante avec ce grain un peu de gramophone, vous savez, et qui raconte un petit peu l'histoire de Mars. Et c'est vrai que on pensait véritablement que Mars et la Terre se ressemblaient à cette époque, qu'il y avait encore qu'il y avait de la vie. Et il est dans les années 60, quand les premières missions spatiales sont arrivées, on s'est rendu compte que c'était un vrai désert, qu'il n'y avait rien à la surface de Mars et encore moins d'eau liquide et de vie. Mais par contre, très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des formes anciennes de rivières, des lits asséchés des rivières, de lacs. Et donc, avec différentes méthodes, notamment de datation par les comptages de cratères d'impact, on s'est rendu compte que ces rivières, eh bien, s'étaient formées il y a plus de 3 milliards d'années à la surface de Mars. Et c'est ainsi qu'a commencé cette période d'exploration martienne incroyable, d'essayer de trouver, de comprendre l'environnement martien durant l'époque durant laquelle, eh bien, il y avait des lacs, des océans, des rivières et finalement une planète Mars qui ressemblait certainement assez quand même à la planète Terre primitive.
Des océans, des rivières, est-ce qu'on sait quelles ont été les conditions, qu'est-ce qui a favorisé justement la création de cours d'eau sur Mars ?
En fait, que ça soit la Lune ou que ça soit Mars ou la Terre, on a eu la formation d'une atmosphère primitive, on a eu un dégazage avec certainement une atmosphère très riche en eau qui s'est condensée sous forme avec de l'eau liquide. Donc en fait, on a une histoire très parallèle au tout début de la Terre et de la planète Mars. Et après, il y a eu une divergence, c'est-à-dire qu'effectivement, Mars, à une époque, était protégé notamment par son champ magnétique. Et tout comme la Terre aujourd'hui, on n'en parle pas assez du champ magnétique. Mais sans le champ magnétique, on ferait une tête différente hein, sur Terre. Donc sur Mars, il y avait ce champ magnétique qui protégeait la planète Mars. Et Mars, pour une raison qu'on ne comprend pas encore totalement, a perdu son champ magnétique et a progressivement perdu son atmosphère. Et évidemment, sans atmosphère, pas d'eau liquide. Et donc, elle a perdu toute cette capacité à avoir de l'eau des océans. Et donc, il a fallu à peu près un peu plus d'un milliard d'années pour que Mars s'assèche. Et donc, on a toute cette période qui est longue, hein, un milliard d'années, qui est incroyable, avec des archives qu'on a complètement perdues quasiment sur Terre. En fait, entre 3 et 4 milliards d'années sur Terre, on n'a quasiment pas de roches. Alors que quasiment la totalité de Mars est ancienne de 3-4 milliards d'années. Donc on a un véritable livre ouvert sur cette période pour comprendre justement comment le climat a varié, le volcanisme, éventuellement les impacts, bref, tous les événements géologiques qui se sont déroulés dans l'histoire primitive de Mars. Et ça, c'est effectivement fascinant parce que Mars n'est pas une planète triste et il s'est passé énormément de choses. Et donc, on essaye de comprendre un peu l'évolution de la surface de Mars et tous les événements géologiques qui s'y sont passés.
Vous dites qu'on n'a quasiment pas de roches aussi anciennes sur Terre, ça c'est à cause ou grâce à la tectonique des plaques.
Oui, tout à fait.
Qui n'existe pas sur Mars.
Exactement. Si vous prenez déjà la Terre, c'est 70% d'océan. Donc en fait, tous les océans, c'est des roches maximum âgées de 200 millions d'années. Alors ça paraît vieux comme ça, mais à l'échelle de la Terre, c'est très très jeune. Et puis quand vous regardez sur les continents, vous allez avoir quelques endroits avec des roches de 1, 2, 3 milliards d'années. On a quelques affleurements à 3,5 milliards d'années, mais ce sont de toutes petites superficies en fait sur Terre, alors que sur Mars, ben voilà, on a quasiment toute la planète qui reflète cette histoire primitive, et donc on a envie, ben voilà, d'étudier, de comprendre. Les terrains sont très vastes, on a envie d'envoyer des robots évidemment pour aller un peu caresser les roches, et donc on a évidemment encore beaucoup de choses à comprendre, mais on avance.
Est-ce qu'on a une estimation de la durée pendant laquelle l'eau s'est maintenue à l'état liquide sur la surface martienne?
Alors ça, c'est une bonne question. En fait, tout comme sur Terre, maintenant, on pense quand même que l'eau liquide est arrivée au tout début de la formation de Mars, peut-être vers 4,4 milliards, 4,3 milliards d'années, donc très tôt dans l'histoire géologique de Mars, et on voit encore des traces d'eau, de beaucoup d'eau jusqu'à peut-être 3 milliards d'années, et encore, en fait, après, on a quelques réseaux de rivières, etc., très localement, donc, en tout cas, voilà, plus d'un milliard d'années, en fait, l'eau a été présente, peut-être épisodiquement, on ne comprend pas encore si c'était totalement continu ou si c'était vraiment des épisodes liés à différents événements géologiques. En tout cas, l'eau a été présente pendant longtemps à la surface de Mars. Ouais.
Comment étudie-t-on la surface de Mars aujourd'hui ? On poursuit avec cette archive de 1972.
Des cratères, à proprement parler, et des cratères caractéristiques, il n'y en a pas beaucoup. Mais comme nous venons de dire, la Lune et Mars, car il faut citer Mars aussi, comme planète ou comme corps céleste qui a reçu un grand nombre de météorites et qui montre des cratères plus ou moins âgés. D'ailleurs, il y a des cratères lunaires très vieux, il y en a d'autres plus jeunes, qui semblent indiquer qu'il y a eu un bombardement par météorites de très grosses dimensions quelquefois, qui ont vraiment remanié profondément le sol de la Lune et de Mars. Il n'y a aucune raison de penser que la Terre n'a pas, elle aussi, été soumise à un bombardement du même genre, aux mêmes périodes, peut-être il y a longtemps, mais enfin à la même époque. Et la raison pour laquelle nous n'apercevons pas sur la Terre des cratères en grand nombre, analogues aux cratères lunaires ou martiens, c'est qu'ils ont existé, mais qu'ils ont été ensuite détruits par érosion, par l'eau, par l'air, et aussi par la végétation, il faut le dire, qui, d'une manière générale, remanie la surface du sol et fait disparaître beaucoup des détails, surtout quand ils ne sont pas de très grandes dimensions, comme beaucoup de ces cratères météoritiques.
Cependant, il y en a qu'on voit encore très bien, comme le météore cratère en Arizona.
Bien entendu, il y en a un qui s'appelle
c'est
météore cratère.
C'est un exemple.
C'est un cratère météoritique typique, il n'est pas très grand, et il est relativement récent, et c'est pour ça qu'il est encore en bon état, et qu'on a pu l'étudier comme un petit cratère lunaire. Mais c'est un petit cratère lunaire. Mais ce n'est pas beaucoup, un cratère sur la Terre, alors qu'il y en a des milliers et des milliers sur la Lune et sur Mars.
Voilà la voix du professeur Pierre Auger, physicien français, dans les grandes avenues de la science moderne sur France Culture en 1972. Sylvain Boulet, comment on détermine l'âge d'un cratère sur Mars ?
Ah, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. En fait, depuis finalement assez peu de temps, c'est pas toujours possible. Il y a certains cratères, et ça c'est par exemple le travail d'un de mes doctorants, là, Anthony Laguin, qui en fait, quand on observe un cratère, on voit souvent une nappe d'éjecta, c'est-à-dire les roches qui ont été éjectées tout autour du cratère. Et donc, si on compte le nombre de petits cratères qui sont superposés aux éjectas, eh bien, on peut avoir une idée de l'âge. C'est très simple, hein, c'est-à-dire que plus un terrain est cratérisé, plus il est ancien. S'il n'y a pas de cratère, ça veut dire qu'il est récent. Et donc, un cratère, des éjectas de cratères qui sont très cratérisés, eh bien, on sait que ce cratère est ancien. Et à l'inverse, bah, on a des cratères extrêmement récents. Hein, et ces cratères, on les cherche d'ailleurs, les cratères extrêmement récents, parce que c'est ceux-là qui sont à l'origine notamment des météorites martiennes qu'on retrouve sur Terre.
Ces météorites martiennes qu'on retrouve sur Terre comme la fameuse météorite Black Beauty.
Oui, tout à fait. Alors, Black Beauty, c'est une météorite unique en son genre, hein, qui a été trouvée en 2011 en Afrique du Nord. Et en fait, cette météorite, c'est une brèche d'impact. Justement, je vous en ai montré une de Rochechouart. Ben, en fait, c'est une brèche d'impact martienne. Et à l'intérieur, il y a plein de petits morceaux qui ont été concassés du sol martien. Et donc, en fait, quand on étudie la brèche d'impact Black Beauty, eh bien, on a accès à plein de types de roches. Et c'est fascinant parce qu'en fait, quand vous observez la surface de Mars, en général, au premier ordre, vous trouvez surtout des roches volcaniques type basalte. Mais quand vous avez une brèche d'impact, et ben vous allez concasser des roches de la profondeur et vous les remonter à la surface. Et donc, dans cette roche de Black Beauty, vous avez accès à des roches qu'on n'avait pas vues depuis l'orbite, notamment des petits morceaux de granit. Donc, c'est quand même une révolution. On a des morceaux de quartz. En fait, quasiment sur Mars, on n'avait jamais jamais observé du quartz. Alors vous, ça paraît familier, parce que voilà, on revient de vacances, on a tous bronzé sur des grains de quartz. Et bien là-bas, sur Mars, il n'y a pas de grains de quartz normalement. Et le fait d'en trouver indique quand même des processus géologiques qui ressemblent à celui de la Terre, notamment dans la formation d'endroits qui ressemblent finalement à nos continents terrestres.
Oui, puis la formation de granit, ça indique aussi qu'il y a déjà l'eau sur Mars il y a 4,4 milliards d'années.
C'est ça. Alors, effectivement, la météorite de Black Beauty, par la découverte des quartz, là, par Virgil Malarevich, qui a fait sa thèse avec nous, avec Brigitte Zanda, et qui en avait créé Vigicel, en fait, ces grains ont été datés autour de 4,3-4,4 milliards d'années. Et la présence de grains granitiques tend à montrer quand même qu'il y avait déjà de l'eau à cette époque.
Déjà de l'eau, des océans même, ça fait partie des découvertes que je trouve assez fascinantes, ce que vous montrez dans deux études, l'une de 2017 dans le Journal of Geophysical Research, et une deuxième étude en 2019 dans la même revue, et vous montrez en effet ces vestiges morphologiques de tsunamis sur la surface de Mars.
Ah, ça, c'est une belle histoire, c'est une belle histoire. Et effectivement, ces recherches, on le doit notamment à François Cottard, qui a monté cette petite équipe dont je fais partie. Et en fait, on a observé, vous savez, Mars est une planète un peu coupée en deux, avec des terrains très cratérisés dans l'hémisphère sud et des terrains plus bas dans l'hémisphère nord, quasiment dénués de cratères. Et donc, on pense que, effectivement, ces terrains de l'hémisphère nord étaient recouverts par un océan d'eau liquide. Et en bordure, justement, entre ces plaines de l'hémisphère nord et ces terrains de l'hémisphère sud, François Cottard a vu des morphologies qu'on a étudiées. Et ces morphologies, c'est des espèces de coulées de boue un peu lobées. Et normalement, une coulée de boue, ça va du haut vers le bas. Et en fait, François Cottard a observé pour la première fois des coulées de boue qui remontaient les pentes. Et donc, imaginez-vous, vous êtes coulée de boue, vous rencontrez une falaise. Normalement, si vous n'avez pas assez d'énergie, vous restez en bas de la falaise. Et là, en fait, la coulée de boue avait assez d'énergie pour remonter sur le plateau. Et ça, sur Terre, un phénomène qui permet de les couler, de remonter sur les plateaux, il faut énormément d'énergie. Et en fait, on peut l'expliquer finalement que par le processus de tsunami. Et donc voilà, ça c'est une preuve géologique qui montre qu'il y avait un océan, qu'il y a eu un impact géant dans cet océan et qu'il y a eu effectivement la propagation d'ondes et de coulées qui se sont formées et remontées les pentes entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud martien.
Vous révélez des tsunamis anciens, vous révélez aussi des continents cachés.
Oui, alors moi je suis fasciné par l'évolution des surfaces des planètes. En fait, souvent on se dit on voit quelque chose. Mars aujourd'hui, si on peut s'arrêter à ce qu'on voit en se disant c'est la planète Mars ressemble à ce qu'on voit aujourd'hui. Mais en fait, une planète évolue sans cesse. Par exemple, sur Mars, vous allez avoir un énorme dôme volcanique qui fait 5000 km de diamètre. Évidemment, à une époque, il n'y avait pas de dôme volcanique de Tarsis. Il y a des endroits où il y a des gigantesques bassins d'impact. Le bassin Hellas, qui fait 2500 km de diamètre. Imaginez-vous la formation d'un bassin qui fait trois fois la France. En fait, ça modifie complètement la géographie de la planète. Ces bassins d'impact ont dû se former autour de 4,2-4,3 milliards d'années sur Mars. Et en fait, la géographie martienne a été complètement modifiée. Donc, on s'est amusé avec des collègues à enlever les volcans, à enlever les bassins d'impact, et on a fait à ce moment-là ressortir une structure qu'on n'avait pas vue, et par différents jeux de données, de magnétisme, de chimie, on a montré que cette structure finalement avait toutes les caractéristiques d'un continent terrestre. Alors peut-être pas les mêmes processus de formation, mais en tout cas, ça montre que très tôt dans l'histoire de Mars, on avait des processus qui formaient certainement des continents, et donc tout ça, évidemment, c'est une nouvelle page à étudier avec plein de belles choses à découvrir.
Un continent qui fait quand même deux fois la taille de l'Europe, mais comment les continents se forment-ils sur Mars alors qu'il n'y a pas de tectonique de plaques ?
Bien ça, c'est une bonne question. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. C'est-à-dire que même sur Terre, en fait, on pense que la tectonique des plaques est arrivée assez tardivement. On parle toujours de tectonique des plaques sur Terre, mais la tectonique des plaques est certainement arrivée plutôt autour il y a 3,5 milliards d'années sur Terre. Et donc certainement, pendant 500 millions d'années, 1 milliard d'années, il n'y a pas eu de tectonique des plaques. Et pourtant, il y a eu certainement des continents. Et donc, on est en train justement de chercher des nouveaux processus de formation de continents. Il y a des processus qu'on appelle la sacduction. Alors, c'est un mot un peu compliqué de tectonique verticale qui permet des mouvements comme ça à l'intérieur de la croûte et à former, à épaissir éventuellement les continents. Donc c'est encore des sujets vraiment brûlants. Voilà, on ne comprend pas encore pour le moment la formation des premiers continents. Et voilà, ça va nécessiter un grand travail de nombreux doctorants et de chercheurs dans les prochaines années.
Et à propos de croûte et de mouvement, autre découverte que je trouve assez fabuleuse également, une parution dans Nature en 2016, où vous montrez que la surface de Mars a basculé de 20 à 25 degrés. Trop lourde, sa croûte et le manteau martien ont glissé autour de son noyau pendant son enfance. Un peu comme si la chair d'un abricot tournait autour de son noyau, c'est ça?
Ouais, alors ça, c'est fou. C'est fascinant. En fait, c'est un processus qui existe certainement sur d'autres planètes. La Terre a certainement connu de tels basculements, mais on a du mal à les reconnaître sur Terre parce qu'on perd des archives. Sur Mars, effectivement, ce basculement, on le doit notamment à la formation de ce gigantesque dôme volcanique de Tarsis, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait 5000 km de diamètre, 12 km d'épaisseur. Et donc, quand vous rajoutez une énorme masse comme ça à la surface, eh bien, la planète va devoir retrouver une certaine stabilité. Et pour rendre stable la planète, eh bien, la planète va basculer, va remettre le dôme de Tarsis sur l'équateur. Et tous ces changements, évidemment, ne vont pas se faire du jour au lendemain, va mettre quelques millions, voire dizaines de millions d'années. Et évidemment, a complètement modifié la géographie martienne. Donc, imaginez-vous, c'est comme si un énorme dôme volcanique apparaissait au Canada. Bah certainement, l'Islande deviendrait le pôle Nord, la France deviendrait l'Islande, l'Afrique deviendrait la France. Donc, le climat complètement serait bouleversé. Donc, voilà, on essaye de comprendre justement toutes ces modifications et l'évolution de la planète.
On l'entend depuis le début de cette émission, vous avez cœur de rendre accessible l'astronomie au plus grand nombre. Mais quelle est votre méthode? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Sylvain Boulet. On vient de parler de vos études sur les surfaces planétaires et sur les cratères d'impact. On peut parler, avant de rejoindre nos chroniques de fin d'émission, on peut parler de votre autre passion, cette astronomie populaire, puisque dès votre publication de thèse en 2009, vous publiez deux ouvrages de vulgarisation qui sont destinés au grand public, Petit Atlas des étoiles et planètes et L'astronomie en 300 questions-réponses. Ça veut dire ça que pour vous, l'astronomie, c'est nécessairement une discipline populaire?
C'est populaire et indispensable. C'est-à-dire que, vraiment, je pense que l'astronomie devrait être dans tous les programmes scolaires, sous différentes formes. On peut faire de l'astronomie en littérature, en histoire, en physique, en chimie, bref, en tout. Mais c'est vrai que l'astronomie est une science accessible à tous. C'est certainement, voilà, pour moi, la plus belle des sciences, parce qu'elle regroupe tout. Et je pense indispensable pour comprendre là où on habite. C'est-à-dire que si on veut comprendre la planète Terre, aujourd'hui, voilà, c'est indispensable de comprendre ce qu'est notre planète, l'évolution, on parle de changement climatique, bah, il faut aussi comprendre finalement ce qu'est une planète, la replacer dans son cadre et on a besoin voilà, tout simplement dans le monde entier en fait, de parler d'astronomie. On a la chance, nous en France, d'avoir des dizaines, centaines de clubs d'astronomie qui nous permettent d'échanger, mais dans le monde entier en fait, la majorité, dans de nombreux pays, près de la moitié des pays, bah, il n'y a pas de lunettes astronomiques, pas d'observatoire pour faire de l'astronomie. On a envoyé une lunette astronomique en République démocratique du Congo, certainement la première lunette en République démocratique du Congo, la personne dit tellement que c'est un privilège et en fait il se doit de partager l'astronomie avec cet instrument. En fait on se rend pas compte à la chance qu'on a finalement aujourd'hui d'avoir accès à tout ça en France, et il y a encore du travail parce qu'en fait dans les événements comme On the Moon Again qu'on organise, où on invite tous les gens à sortir des télescopes dans la rue pour montrer la Lune aux passants, bah en fait, on se rend compte que la majorité des gens en France n'ont jamais observé la Lune. Donc voilà, on a du travail pour la rendre populaire. Il faut surtout aller dans les endroits où en fait on ne s'y attend pas et essayer de toucher de nouveaux publics pour sans cesse rendre l'astronomie encore plus populaire.
Et pour conclure, comment vous y prenez justement pour toucher un public qui ne s'intéresse pas de base à l'astronomie?
Eh bien, il faut aller là où les gens sont. C'est-à-dire qu'effectivement, dans On the Moon Again, on va dans les rues et on essaye de surprendre les passants et en leur proposant un spectacle unique. Et je peux vous assurer que, voilà, observer la Lune pour la première fois dans un télescope, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc, voilà, pour tous les auditeurs qui n'ont jamais observé la Lune, eh bien, essayez de trouver un petit télescope ou une paire de jumelles pour observer les cratères. Bonne randonnée lunaire.
Oh, merci, le message est passé. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo.
beau, mais je rappelle à nos auditeurs que votre ouvrage « Impact des météores au cratère » paru aux éditions Bellin en 2017 est disponible en librairie ou en médiathèque. Alors tout de suite, on quitte l'astronomie pour la médecine. Les anticorps de Lama ouvrent une nouvelle voie thérapeutique pour traiter la schizophrénie. C'est la chronique avec science.
Et si les lamas offraient une nouvelle piste thérapeutique contre la schizophrénie? La schizophrénie touche environ 600 000 personnes en France. C'est une pathologie très complexe qui souffre de clichés, notamment autour du dédoublement de la personnalité. Et c'est l'image véhiculée au cinéma, comme dans Black Swan, Split ou encore Food Irene. Mais la schizophrénie, ce n'est pas ça. C'est un ensemble de symptômes divers avec trois catégories principales. Il y a les délires et hallucinations, c'est ce qu'on connaît le plus. Et ils sont appelés symptômes positifs. Les symptômes négatifs, ce sont le retrait social et émotionnel qui ressemble assez à ceux de la dépression. Et pour finir, les troubles cognitifs, là on parle de difficultés de concentration et de mémorisation. Ces troubles cognitifs sont très handicapants dans la vie quotidienne, pourtant il n'existe pas vraiment de traitement pour les atténuer. Julie Kniazev est chargée de recherche CNRS à l'Institut de biomolécules Max Mousseron. Elle a participé à ses travaux lorsqu'elle était à l'Institut de génomique fonctionnelle de Montpellier.
Les traitements de référence, ce sont des antipsychotiques de deuxième génération. C'est ce qu'on appelle des petites molécules qui sont capables de prendre en charge, quoi, de corriger les symptômes positifs et partiellement les symptômes négatifs. Par contre, ils n'ont aucun effet sur les symptômes cognitifs, ce qui reste à ce jour vraiment un point limite de ces traitements par petites molécules. Et en plus, il y a un certain nombre de patients qui sont résistants à cette pharmacothérapie. Et du coup, il y a un besoin de recherche de nouvelles pistes thérapeutiques pour la prise en charge des symptômes de la schizophrénie. Et d'un point de vue général, pour beaucoup de pathologies psychiatriques, c'est ciblé par des petites molécules et donc d'autres types de molécules pourraient être intéressantes parce que les petites molécules, elles ont parfois des effets secondaires assez importants et une approche en immunothérapie, comme ça peut se faire pour d'autres choses, pourrait constituer une alternative très intéressante.
L'immunothérapie, c'est la thérapie par anticorps. Ce sont des molécules qui sont sécrétées lors d'une réponse immunitaire, naturelle ou avec un vaccin, et on détourne à présent cet usage pour en faire des médicaments très ciblés. Cela pose problème pour les pathologies psychiatriques car le cerveau est isolé par plusieurs remparts. Le premier est la barrière hémato-encéphalique qui, comme son nom l'indique, sépare l'encéphale, le cerveau, du sang. On trouve aussi des vaisseaux sanguins dits fenestrés, percés de petites fenêtres. Leur rôle commun est de protéger le cerveau des pathogènes et des déchets de l'organisme en empêchant le passage de grosses molécules, mais les anticorps de Lama pourraient être une solution. Comme chez tous les camélidés, ces médiateurs de l'immunité sont de taille réduite. Les anticorps de Lama, chameau, dromadaire ou alpaga sont environ 10 fois plus petits qu'un anticorps classique. C'est pour ça qu'on les appelle aussi des nanocorps. Dans cette nouvelle étude parue dans Nature, ces scientifiques ont utilisé un nanocorps pour cibler un récepteur cérébral déjà connu dans la schizophrénie. Et résultat, dans deux modèles murins, donc chez la souris, les anticorps de Lama passent bien les barrières cérébrales.
Donc il y a un des modèles qui consiste en fait à traiter des petites souris, donc à peu près au niveau de l'adolescence, avec une molécule qu'on appelle le PCP, mais qui est aussi connue comme la poudre d'ange, et qui a été beaucoup utilisée dans les années 70 en drogue d'abus, et qui, après, chez des personnes qui prenaient cette drogue l'adolescence, elles développaient une schizophrénie 5 à 10 ans plus tard. Donc c'est quelque chose qu'on peut reproduire chez la souris, donc ça c'était notre premier modèle. Et nous avons un autre deuxième modèle qui se traduit par des symptômes schizophréniques et un petit peu autistiques. Et ça c'est quelque chose également qui est retrouvé chez l'homme. Et donc, nous avons utilisé ces deux modèles animaux et nous avons du coup administré notre nanocorps et nous avons montré que du coup, que contrairement aux anticorps de format plus classique, les nanocorps, probablement du fait de leur petite taille, eux sont capables de pénétrer dans le cerveau. Et les symptômes sont corrigés dès le lendemain de l'administration et jusqu'à au moins 7 jours après l'administration unique.
Une dose suffit pour voir des effets et surtout le petit anticorps améliore les troubles cognitifs, un résultat inédit puisque les traitements actuels n'y parviennent pas vraiment. C'est la première étude à prouver que les anticorps de Lama atteignent le cerveau, mais il reste encore énormément à faire. On ignore par quel chemin cet anticorps passe, combien de temps il y reste, combien de temps durent ses effets, quelle est la dose optimale. Bref, beaucoup d'inconnus demeurent. Nous sommes encore en amont des essais précliniques chez l'animal et donc à une décennie. Dans le meilleur des des cas, des essais cliniques chez l'humain. Mais l'enjeu plus large de cette étude, c'est qu'elle ouvre la voie à de nouvelles pistes thérapeutiques pour des maladies du cerveau, pour d'autres maladies psychiatriques par exemple, mais aussi pour des pathologies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson.
Merci Alexandra pour votre chronique. Grande nouveauté de cette rentrée à France Culture, le fil Culture G. Chaque jour, c'est un coup de projecteur qui éclaire notre actualité. Philo, éco, histoire, numérique, pop culture, gastronomie. En 3 minutes 30, du lundi au dimanche, les meilleurs experts tirent le fil d'Ariane pour mettre notre monde en perspective, un gai savoir sous toutes les coutures. Et tout de suite, c'est le fil science avec Evelyne Heyer, professeur d'anthropologie génétique, en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, qui nous propose chaque mercredi l'Odyssée des humains. Aujourd'hui, non, l'homme ne descend pas du singe, tout simplement parce qu'il est un singe.
Non, l'homme ne descend pas du singe. Cette idée que l'humain descendrait du singe est une idée ancienne encore répandue. Mais elle est totalement fausse. Alors, je le répète, comme de nombreux collègues, non, l'humain ne descend pas du singe. L'humain ne descend pas du singe tout simplement parce qu'il en est un de singe. Plus exactement, nous sommes des primates, comme les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, les babouins. Mettons un peu d'ordre dans tout cela. Notre espèce fait donc partie des primates. C'est un groupe dont les caractéristiques communes sont un assez gros cerveau, des yeux vers l'avant de la face, une vision en 3D et trichromatique. Le trait commun le plus connu est celui du pouce opposable aux autres doigts qui permet de saisir des objets en formant une pince. Ainsi, nous faisons partie des primates au même titre que les babouins, chimpanzés, gorilles et autres. Et parmi les primates, il y a ce qu'on appelle communément les grands singes. Ce sont les hominidés qui regroupent les orang-outans, les gorilles, les bonobos ainsi que les chimpanzés et bien sûr les humains. Les individus de ces espèces sont tous de grande taille et surtout, ils n'ont pas de queue. Tous les grands singes ont un ancêtre commun vieux de plusieurs millions d'années. Alors depuis cet ancêtre commun, les humains et les primates non humains ont évolué en des lignées différentes. Parmi les primates non humains, les plus proches de nous sont le groupe des chimpanzés et bonobos et nous avons un ancêtre commun autour de 7 millions d'années. Pendant très longtemps, on pensait que cet ancêtre commun était semblable aux chimpanzés et qu'il s'était peu à peu redressé pour évoluer progressivement vers l'homme moderne. Mais c'est loin d'être le cas. En fait, l'ancêtre commun était un singe ni humain ni chimpanzé, mais plutôt entre les deux. Et ces lignées, divergences, celles de l'humain et celles du chimpanzé, ont évolué chacune de leur côté pour donner les résultats différents. Alors à quoi ressemblait précisément cet ancêtre commun? C'est encore une des plus grandes questions de la préhistoire. Et même si nous partageons beaucoup de choses avec le chimpanzé ou avec le bonobo, notamment presque 99% de notre ADN, ils ne sont pas nos pères, nos ancêtres, nos frères, mais plutôt des cousins. Mais alors, si l'humain est une espèce parmi les singes, qu'est-ce qui nous distingue de ses cousins? Qu'est-ce qui fait de nous des humains? Pendant longtemps, on a pensé que la fabrication d'outils était un trait spécifique aux humains. Mais non, le fait de créer et d'utiliser des outils ne relève pas du propre de l'humain. En effet, des singes comme les chimpanzés sont tout à fait capables de créer des outils. Ils peuvent choisir un bâton, le travailler, l'écorcer et l'affiner pour ensuite l'utiliser pour dénicher des termites. Alors c'est vrai qu'il existe des différences dans la façon de créer ces outils. Chez les chimpanzés, la fabrication reste sommaire. Elle ne résulte pas d'une anticipation de toutes les étapes de construction, à l'inverse des humains. Néanmoins, les chimpanzés créent bien et utilisent des outils. Alors il faut aller chercher autre part notre spécificité. Les scientifiques ont tranché, c'est la bipédie. Un humain est un animal faisant partie des primates et plus particulièrement des grands singes, qui est bipède et dont le corps s'est adapté à cette bipédie. Si tous les primates sont capables de marcher sur deux jambes sur de courtes distances, seuls les humains réussissent à être bipèdes sur de longues durées et distances, tout en gardant une bonne capacité respiratoire. Leur corps montre également une transformation en lien avec ce mode de locomotion. C'est finalement les pieds qui font l'humain.
Merci Evelyne Heyer pour ce fil science et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Joseph Schegel, pardon. À la réalisation, Olivier Bétard à la technique aujourd'hui, Ludovic Auger. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.